Bon, ben, on va prendre des nouvelles de Georges Larac. La semaine dernière, on lui avait parlé. Il se préparait à suivre une formation, donc, pour aider dans le réseau de la santé avec la crise actuelle. Et puis, bang, la nouvelle est tombée. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec problèmes respiratoires, également COVID-19. Il est hospitalisé. Il est avec nous ce matin. Georges Larac, comment allez-vous d'abord?
Comment allez-vous, monsieur? Moi, ça va pas mal mieux.
Oui. De retour à la maison, là, je pense, hein, Georges?
Oui, depuis hier.
OK, bon.
Parle-moi des derniers jours. Là. Il y a un moment, ça a été un peu plus dur quand même. Là.
Mais c'est sûr que la première journée, jeudi, c'était plus dur parce que moi, je suis une personne qui souffre d'asthme. Puis quand je suis arrivé jeudi, j'avais besoin de 3 litres d'oxygène qui rentraient par le nez. Puis essayer de parler quand tu as de l'oxygène qui rentre par le nez, souffre d'asthme, ça vient d'arriver, puis tu as des fièvres à travers tout ça. Les deux premiers jours, c'était les pires. C'était les pires. Je savais que j'allais m'en sortir, mais c'était sûr qu'avec le temps aussi, ça laissait se tomber, puis là, je suis plus vers la fin. J'ai toujours une pneumonie au poumon, bien entendu, mais la raison pour laquelle j'ai pu partir, c'est que les médicaments, puis ce que je dois faire en ce moment, je peux le faire tout seul à la maison. Parce qu'en ce moment, il y a une pénurie de lits à l'hôpital, puis où est-ce que j'étais en ce moment, à Charlemagne, j'étais là, un des plus jeunes qui était là. Donc, les personnes qui étaient là sont pas autonomes, puis ont besoin de beaucoup d'aide des infirmières. Donc, pourquoi j'utiliserais le lit de quelqu'un qui pourrait en avoir de besoin pour plus tard, parce qu'ils en ont besoin de la place. Puis moi, ben, étant donné que j'avais pas besoin d'aide de d'autres personnes pendant que j'étais là, la seule chose, à partir du moment que j'avais plus besoin de l'oxygène, là, je pouvais aller chez moi. Puis c'est sûr que je suis pas guéri, là, ça va prendre du temps. Puis mes poumons sont pas guéris non plus. Pensez pas que parce que ils m'ont envoyé chez moi que je suis guéri, tout est correct. Là. J'ai des médicaments à prendre, puis je suivais à quand même à faire à la maison. Mais au moins, je peux le faire ici, puis laisser la place à quelqu'un d'autre à l'hôpital qui va avoir besoin de l'oxygène.
Est-ce que tu sais pour combien de temps tu dois rester à la maison?
Là, en ce moment, il faut que ce soit au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines, puis dans 2 semaines, quelqu'un qui va venir me voir pour me faire un autre test, pour m'évaluer. Parce que avec tout ce que je fais, puis je vais continuer à aider dans le domaine de la santé, comme je vous ai dit, j'ai donné mon nom, puis je veux aider, mais pour pouvoir faire ça, il faut s'assurer que j'ai un test négatif, bien entendu. Donc, là, je suis toute leur directive, je reste dans la maison, je peux pas sortir. C'est bien correct. Puis de toute façon, à partir du moment que quelqu'un m'amène quelque chose chez moi, tous les voisins sont par la fenêtre et regardent pour voir qu'est-ce qui se passe, pour voir si je vais sortir. C'est sûr, je pense pas. Bon. C'est comme si j'avais la lèpre en ce moment, puis là, tout le monde me vérifie.
OK, mais tu as été très actif sur les réseaux sociaux. Bon, on a appris d'abord que tu étais hospitalisé, ensuite des vidéos, des commentaires. T'es pas sans savoir que ça a amené un lot de remarques négatives en disant, là, écoute, il est pas si malade que ça, il est en train de nous préparer une espèce de roman fleuve. Il se sert de ça pour manipuler le monde. T'as vu ça, ces commentaires-là?
Ah non, mais c'est sûr que j'ai vu les commentaires. L'affaire, faut pas oublier, c'est que haters always gonna hate. Il y a du monde, tu peux pas faire l'humanité avec tout le monde quand tu es une personnalité publique, puis quand tu t'affiches, quand tu publies des choses. Moi, c'est dans ma page personnelle, je partage mon expérience pour des gens qui connaissent pas ce virus-là, pour qu'ils puissent le prendre au sérieux. Je fais comme une campagne de sensibilisation. Si les gens veulent penser que j'ai été payé pour faire ça, peut-être qu'ils ont oublié que j'ai joué 13 ans en Ligue nationale, puis il y a personne qui va me payer pour dire ou faire quoi que ce soit. Mais c'est correct. Il y a des gens qui croient la théorie du complot, toutes ces choses-là, puis on peut rien faire pour ces gens-là. Moi, l'énergie négative de même, je la mets de côté. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je suis vraiment malade. J'ai vraiment été testé. J'ai mes rayons X. J'ai mon CD avec moi si les gens veulent le voir, pour voir si j'ai vraiment une pneumonie au poumon. Ça me dérange pas. C'est des choses que c'est vraiment arrivé. Puis je veux sensibiliser les gens là-dessus. Je partage mon expérience. Puis ça me dérange pas que ceux qui ne veulent pas y croire, puis pensent que le gouvernement m'a payé pour faire ça, que c'est une mise en scène, ce n'est pas du tout vrai. Mais écoute, on peut pas contrôler ce que les gens veulent penser. Ils sont libres de penser qu'est-ce qu'ils veulent. Puis tous ces gens-là qui pensent au complot, ces choses-là, ben je les plains s'ils ont des enfants à élever.
Georges, t'as dit que tu voulais reprendre tes activités après ta guérison. Est-ce qu'il va y avoir certaines restrictions où tu vas pouvoir faire tout ce que tu voulais faire là avant que tu sois frappé par la COVID?
Ben moi, ce que je voulais faire, bien entendu, c'est, tu sais, il y a une pénurie d'aide pour les personnes âgées en ce moment. Puis, tu sais, en ce moment, je suis malade, je peux pas rien faire, mais c'est parce que à travers des épreuves difficiles, l'entraide, elle est super importante en ce moment. Parce qu'à un moment donné aussi, je vais être une personne âgée, puis je vais avoir besoin d'aide, puis je vais espérer qu'il y en ait de l'aide. Puis c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a une formation à suivre avant de pouvoir les aider. Une formation qui durait toute une journée que je devais suivre lundi, mais je suis tombé malade dimanche. Puis cette formation-là nous apprend exactement les directives puis les procédures qu'il faut prendre pour que ce soit sécuritaire, pour pas mettre personne en danger. Fait que, puis c'est sûr que quand je vais être correct, je vais être en santé, je vais devoir suivre cette formation-là qui dure toute une journée avant de pouvoir rentrer dans un centre pour pouvoir aider les gens, pour s'assurer de pas les mettre en danger puis pas me mettre en danger aussi.
Mais est-ce que c'est prudent de ta part de faire ça? C'est-à-dire, compte tenu que tu étais malade, je comprends qu'il peut y avoir peut-être une forme d'immunité, mais tu es déjà asthmatique de te mettre à risque comme ça puis d'aller dans des centres?
Mais, OK, c'est pas prudent pour aucun infirmier, infirmière et docteur en ce moment d'aider les gens qui souffrent du COVID. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur vie en danger à tous les jours pour aider les gens, parce que s'ils ne font pas, qui va le faire? Puis c'est vrai ce que tu dis. Oui, c'est dangereux, c'est en danger, je fais de l'asthme, puis je l'ai eu une fois, puis je peux le revoir une deuxième fois. C'est un danger pour moi de retourner là-dedans puis de m'exposer encore. Mais encore une fois, en ce moment, qu'est-ce qui est plus important? Rester dans mon petit confort à la maison, rien faire parce que j'étais malade, puis là, je ne vais plus aider personne, ou essayer d'utiliser ce que j'ai passé au travers, partager mon expérience, faire attention que ça n'arrivera pas, puis aider les gens pendant que je suis en santé pour les aider à passer à travers ça, parce que les personnes plus âgées, ils n'ont pas la santé aussi forte que la mienne pour être capables de passer à travers une épreuve comme que je passe en ce moment, puis ont besoin de l'aide de personnes, puis je vais être encore plus sensibilisé étant donné que je l'ai eu, puis je sais ce que je ressens. Mes poumons brûlent encore, je le sens à l'intérieur de moi, mais c'est sûr que c'est moins pire. Mais pour ces gens-là, j'avais deux gens dans ma chambre, deux personnes âgées dans ma chambre qui souffraient du COVID. Je les voyais souffrir, se morfondre à tous les jours, 24 heures sur 24 devant moi. On vivait tous dans la même pièce. Puis je leur envoyais des ondes poussées. Je me sentais vraiment mal de les voir comme ça. Puis eux, ils se demandaient quand est-ce qu'on peut aller à la maison. Puis ils étaient vraiment malades. Puis des fois, ils étaient un petit peu perdus aussi mentalement. C'était dur de voir ça. Puis des fois, à un moment donné, j'ai parlé au monsieur. J'ai dit, comment ça va? Puis il m'a dit, tu sais, je me sens seul. Puis c'est ça, c'était tellement triste d'entendre ça. Puis des fois, leur enfant les appelle dans le téléphone ou puis entendre le téléphone sonner pendant mes lives. Puis ils sont seuls, ces gens-là. Puis des fois, juste les visites des infirmières, c'est comme une famille. C'est ce qu'ils ont besoin, juste de l'accompagnement. Puis c'est pour ça que si je peux faire ça, puis aider des gens à pouvoir les faire rire, garder mon sens de l'humour pendant ces moments difficiles-là, puis par exemple, je suis une personne qui aime rire comique, mais je vais le faire le plus possible pour essayer de ramener beaucoup de sourires.
Alors, ben prends soin de toi. Bon rétablissement. Merci, Georges.
Merci, les gars.
Au revoir. C'était Georges Larac, voilà. Comme disait M. Gilles, là, ceux qui pensent qu'il a fait un décor d'Hollywood, puis que c'est un faux lit d'hôpital, puis que ça a été tourné chez Merz, là. Non, mais je sais qu'il y en a que ça les amuse là, de carburer à ces histoires-là, là, puis que ça leur fait du bien mentalement. Là. Mais bon, et ben, dans le sport, la saison de la Ligue nationale de hockey.
Ben là, semble-t-il qu'on aurait des développements à la fin de la semaine ou au début bon. De la semaine prochaine sur le repêchage.
L'humaniste Gary Bettman va poser un geste.
Écoute, lui, tu comprends, là, on parle du 5 juin, c'est une date qui a été avancée hier. Lui, il veut là qu'on parle de la Ligue nationale, qu'on ait un peu de visibilité. Peut-être que des commanditaires s'associent à ce repêchage-là pour que l'argent rentre un peu dans les coffres de la Ligue. Hier, il y avait une télé, appel-conférence des gouverneurs de la Ligue, du bureau des gouverneurs. Gary Bettman voulait avoir l'opinion de tout le monde. Et là, ben, il va prendre une décision cette semaine. Ou la semaine prochaine. La chose qu'il faut savoir aussi, que peu importe la décision qu'il va prendre, ça va faire des mécontents. Et selon le plan qui est avancé, là, qui semble le plus populaire actuellement, et c'est souligné ce matin par mon collègue François Gagnon et dans la presse également, c'est Alexandre Pratt, je pense, qui en parle, les grands perdants de ce plan que Bettman veut mettre de l'avant, ça serait peut-être le Canadien. Parce que là, leur chance de repêcher premier diminuerait à zéro. Et disons qu'il pourrait plus reculer au repêchage qu'avancer. Alors ça, c'est pas une bien bonne nouvelle. Mais écoute, il n'y a rien de décidé, comme je te dis. Là, Gary Bettman va prendre une décision cette semaine ou la semaine prochaine. Et l'autre chose, c'est dans la tribune ce matin. On apprend que s'il n'y a pas de vaccin, la saison 2020-2021 de la Ligue junior majeure du Québec pourrait être annulée et que la date du 6 janvier 2021 a été avancé comme date butoir pour prendre une décision. S'il n'y a pas de remède à ce moment-là, on pourrait tout simplement annuler la saison.
Merci, monsieur. 8h33 et Autoroute des Laurentides, Marc.